Tom Bühlmann.
Bonsoir. En quête d'une victoire pour relancer l'espoir d'une qualification quart de finale, l'équipe de Suisse féminine de football affronte l'Islande ce soir à 21h à Berne pour son second match à l'Euro. Duel entre deux équipes qui se sont inclinées en ouverture de tournoi. Nati pourra s'appuyer sur sa bonne prestation réalisée face à la Norvège malgré la défaite. Il faudra toutefois tenir tout le match ce soir, comme le relève la défenseure helvétique Viola Caligaris.
Alors je crois que c'est un peu le problème qu'on a, c'est que mi-temps. On doit vraiment travailler sur ça pour vraiment jouer bien 90 minutes parce que le rythme il est vraiment haut, les matchs sont vraiment intenses et c'est vraiment les détails qui comptent. Et dès que tu fais un truc, tu t'es pas vraiment concentré ou dès que tu fais une petite erreur, elles vont aller direct dans ce problème, dans cette erreur que tu fais. Et elles font des buts parce que les joueuses, toutes les équipes qui sont à l'Euro, elles sont fortes. Faut vraiment travailler sur ces détails.
La Suisse et l'Islande qui se sont quittés sur deux matchs nuls en Ligue des Nations cette année. La Nati devra particulièrement se méfier de l'attaquante islandaise Karolina Lea Williams-Dottir qui avait inscrit un triplé début avril. La sélectionneuse de la Suisse, Pia Sundhages, attend un match difficile.
Ce sera un match difficile, elles sont très physiques et c'est une bonne équipe. Je m'entends parler des coups de pied arrêtés encore et encore. Quand on a joué contre elles, il y avait aussi des contre-attaques avec Williams-Dottir et de la rapidité. On a un plan, tout le monde sait ce qu'il doit faire pour les coups de pied arrêtés. C'est une chose et c'est important. Maintenant, elles auront aussi des occasions au-delà de ce qu'on a préparé. Donc ce sera une bataille et je sens que l'équipe est très connectée et parle de différents scénarios. Donc on est prête pour ça.
Pia Sundhages qui pourrait reconduire son 3-5-2 avec Nadine Riesen et Iman Benet en piston sur les côtés. La Vélezane, plutôt habituée à jouer en attaque, s'habitue à ce nouveau rôle. Iman Benet.
C'est sûr que cette position, c'était un peu compliqué au début parce que j'ai jamais joué dans cette position auparavant, ni au club, ni en sélection junior. Donc ça a été tout nouveau pour moi, mais petit à petit, ben, à chaque fois que je suis venue ici en sélection, j'ai joué dans cette position. Donc petit à petit, on voit que ça va mieux, mais quand même, je sais que j'ai des trucs à améliorer aussi défensif et offensif. J'essaye d'amener le plus que je peux, même si des fois c'est compliqué parce qu'on était beaucoup vers l'arrière. Mais mercredi aussi, j'ai trouvé que c'était la première fois qu'on était un peu plus offensif et que toute l'équipe aussi, nous les wingbacks, on pouvait être un peu plus haut.
Dossier de notre envoyé spécial Émilie Mumenthaler, coup d'envoi de Suisse-Islande à 21h à Berne. Et le reste de l'actualité sportive en fin de ce journal. Stand été à Moutier a tenu toutes ses promesses. Le festival s'est clos hier soir. L'édition 2025 qui avait débuté le 21 juin. Les organisateurs la qualifient d'édition record. Est-ce que c'est de bon augure pour l'avenir de la manifestation? Alain Tissot, le président du comité d'organisation.
C'est clair que nous, on est dans une dynamique d'avancement, donc on est toujours en train de faire le point sur ce qu'on réalise en ce moment. Donc là, on a pris des notes sur ce qu'on peut améliorer. On a déjà des idées d'artistes qu'on aimerait inviter. Voilà, on est vraiment dans une dynamique d'un festival Stand Étier 2027. Maintenant, comme tout le monde le sait, il y a une formule magique au niveau du financement qui est à reconsidérer et peut-être à réinventer. Voilà, nous, on a confiance dans la bonne intelligence des gens. Le bilan de cette édition montre que c'est un événement qui est nécessaire, qui est vraiment un apport pour la région. Je pense que des solutions peuvent être trouvées. Maintenant, on ne les a pas, nous, les clés. C'est pas à nous que ça appartient. On pouvait juste montrer à quel point ça pouvait être sympa. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait ça.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour obtenir ces clés?
Il faut simplement trouver une manière de remplir le vase de l'argent nécessaire à pouvoir le mettre en œuvre. C'est-à-dire, actuellement, on avait à la base des soutiens publics, qui étaient ceux de la ville et des deux cantons. Cette équation, elle va bouger, la répartition va bouger, mais c'est clair que pour nous, il faut qu'on arrive à la même somme pour pouvoir lancer la structure même du festival. Après, il y a tout le financement privé, et ça, on sait qu'on va pouvoir compter dessus parce qu'on a déjà discuté avec eux, mais c'est vraiment au niveau public qu'il y a cette formule à redéfinir.
L'Ukraine ne fait plus partie du traité d'Ottawa. Elle l'a annoncé cette semaine. Ce traité qui interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de mines antipersonnelles. Une décision qui inquiète le président de la Fondation Digger, Frédéric Gern. Si les mines sont employées pour la guerre, leurs effets perdurent même après celle-ci. Frédéric Gern.
C'est toute l'essence en fait des traités d'Ottawa. Hein. L'essence des traités d'Ottawa a désigné, a repéré et désigné ces engins en mettant en avant en fait leur effet terrible, hein, leur effet qui fait que les guerres sont terminées, les mines restent, les civils sont la plupart des victimes. Donc elles ont des effets qu'on appelle collatéraux qui vont bien bien au-delà du conflit lui-même. Donc c'est en fait au même titre que les gaz de combat, on a vu en fait que ce sont des armes inacceptable, mais comme toujours, ce sont des armes et la tentation de les utiliser pour se défendre, elle est là. Et donc, il fallait un blocus, il fallait un consensus de non-utilisation pour que cette signature, ce traité d'Ottawa ait du sens, quoi. Et là, maintenant, on est peut-être en train de remettre ça en question.
Est-ce qu'on peut aussi en vouloir peut-être à nos politiques qui restent passifs face à cette situation ?
Alors j'espère que nos politiques se lèvent et se battent pour les traités d'Ottawa. La Suisse était un des premiers pays signataires, parmi les premiers pays signataires. Et donc, j'espère que cette dynamique courageuse soit maintenant embrayée, parce qu'en fait, il va falloir protéger en fait ces traités d'Ottawa en disant stop, on arrête l'hémorragie là maintenant. Les pays qui ont fait le choix, ils ont fait le choix, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas se mettre à les juger, mais se battre en tout cas pour qu'il n'y ait pas des suivants qui embrayent le pas.
Et le retrait de l'Ukraine en a provoqué un nouveau. C'est au tour de la Finlande d'annoncer sa sortie du traité anti-mine. Le président a promulgué vendredi le retrait de son pays de la Convention d'Ottawa à laquelle Helsinki avait adhéré en 2012. Le président invoque des menaces sécuritaires. Un chihuahua a aidé à sauver un homme sur un glacier au-dessus de Saas-Fee. Il a attiré l'attention des secours sur son maître tombé dans une crevasse. L'homme s'est retrouvé piégé après qu'un pont de neige a lâché alors qu'il marchait avec son petit chien sur le glacier de Fee. L'accidenté a pu donner l'alerte grâce à son talkie-walkie, mais l'homme pris dans le glacier n'a pas pu être localisé d'emblée. Les secouristes d'Erzermatt expliquent que la surface du glacier Fee est vaste et que la crevasse est à peine visible. L'équipe de secours a alors décerné un léger mouvement sur une roche, le chihuahua qui était juste à côté de la crevasse. L'homme a pu être sauvé et il a été amené avec son chien à l'hôpital de Viège. Un adolescent a grimpé sur un train en gare de Goldau et a été électrocuté lorsque le convoi s'est mis en marche. Le jeune homme de 17 ans a chuté sur les rails, mais il a survécu. Les faits se sont produits dans la nuit passée. Le blessé a pu se traîner seul sur le perron où il a été pris en charge par des tiers. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police schwitzoise. Après les premiers soins prodigués par les services de secours, la régale a transporté dans un hôpital hors du canton. Le jeune homme est grièvement blessé. Il devra répondre de ses actes devant le tribunal des mineurs. Émilien, le plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé, est éliminé des 12 coups de midi sur TF1. Il détient d'ailleurs le record de participation à l'émission après 21 mois, 647 participations et 2,5 millions d'euros de gains en argent et en cadeaux, dont 23 voitures. Ce dimanche, la dernière question d'Émilien à laquelle il n'a pas eu le temps de répondre restera: combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde ? Pour le sport, on l'a dit en ouverture de ce journal, les Suisses vont tenter de l'emporter ce soir face à l'Islande si elles veulent pouvoir relancer l'espoir d'une qualification en quart de finale de l'Euro féminin de football. Coup d'envoi à 21h à Berne. Et dans le même groupe en ce moment, la Norvège affronte la Finlande depuis 18h et après 6 minutes de jeu, le score est de 1-0 en faveur de la Norvège. La victoire d'étape et le maillot jaune pour Mathieu Van Der Poel sur le Tour de France. Le Néerlandais s'est imposé ce dimanche à Boulogne-sur-Mer lors de la seconde étape. Il a réglé au sprint un groupe de punchers en devançant les grands favoris Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Mathieu Van Der Poel qui s'empare donc par la même occasion de la première place du classement général avec le même podium complété par Pogačar et Vingegaard. Lucien Leyser s'est hissé dans le top 6 mondial ce week-end lors de la Coupe du Monde de Vélotrial à Valbirs. Après avoir réussi le petit exploit de se qualifier hier parmi les 6 finalistes de la catégorie 20 pouces, le pilote Vadet n'a pas pu faire mieux qu'une 6e place ce dimanche en finale. Finale remportée par le champion du monde espagnol Alejandro Montalvo. Hier en catégorie 26 pouces, Vito González de Bévillard a pris une belle 7e place en demi-finale. Le Delémontain Loïc Vuillem a terminé 13e et chez les filles, la seule régionale, Célia Berbera, a pris l'avant-dernière place pour sa première apparition en Coupe du Monde. Une nouvelle victoire des McLaren en Formule 1. Lando Norris a remporté cet après-midi sous la pluie le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. L'Anglais a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri et l'Allemand Nico Hülkenberg sur Sauber. Max Verstappen, parti en pole position, a fini 5e après un tête-à-queue. Et on termine ce journal par la météo. Demain, des conditions variables et venteuses sont attendues, accompagnées d'averses parfois orageuses. Ça sera aussi le cas pour mardi. Le sec et le beau temps devraient progressivement revenir mercredi. La météo devrait retrouver des couleurs estivales en fin de semaine prochaine. Et les températures baissent drastiquement. Demain, il fera entre 13 et 17 degrés à Tramelan-Tavannes et Saint-Imier. Il fera entre 14 et 20 à Moutier et entre 15 et 21 degrés à Bienne et à Lanneville. Mardi, il fera entre 10 et 19 degrés sur la région, maximum 23 degrés mercredi. 18h10, merci pour votre écoute et votre fidélité et je vous souhaite une belle soirée.